France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Fermeture totale pour les uns, à partir de 22h pour les autres. De Paris à Marseille, l'incompréhension et la colère dominent chez les restaurateurs et les gérants de bars, dans les villes touchées depuis hier par les nouvelles restrictions anti-Covid-19. Restrictions qui vont d'ailleurs durer au moins 2 semaines. Le référé déposé par le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sera examiné par la justice cet après-midi à 15h. Sachez également que le chef étoilé Philippe Etchebest appelle les restaurateurs et les artisans à des rassemblements. Vendredi, vous l'entendrez dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. Pendant ce temps, hier, le budget 2021 a été présenté par le gouvernement. Sur les 100 milliards d'euros prévus sur 2 ans, un gros tiers servira à améliorer la compétitivité des entreprises et à favoriser la réindustrialisation du pays. L'exécutif insiste notamment sur une baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production pour les entreprises. Et puis environ 30 milliards d'euros iront accélérer la transition écologique via des aides à la rénovation des logements ou au transport propre. Les ONG n'y voient aucune avancée significative sur les chantiers prioritaires. Dans l'Aveyron, à Sévérac, un nouveau résident de l'EHPAD Gloriande est décédé hier du Covid-19. 17 pensionnaires au total y sont morts en un mois seulement. Sur les 75 occupants, 16 seulement n'ont pas été infectés par le coronavirus. Un virus qui se propage au vu du taux de positivité en France. Il est à 7,5%, près de 2 points de plus qu'il y a 10 jours. Cela signifie que sur 75 personnes positives sont positives sur les 1000 tests réalisés sur 1000 personnes testées. Donc 75 sont positives actuellement en France en moyenne. Emmanuel Macron dans les pays baltes, au chevet aussi de la Biélorussie. Face à l'élection contestée d'Alexandre Loukachenko et à la répression de son gouvernement en Biélorussie, le président français a appelé Minsk à respecter la vérité des urnes. Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya. Enfin, sachez que les célèbres vignobles de la Napa Valley en Californie sont dévorés par le feu en ce moment. L'État américain, la Californie, est toujours en proie à une vague de chaleur exceptionnelle.
À midi sur France Culture, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Avec l'exposition star de cette rentrée, Cindy Sherman à la Fondation Vuitton, son art de la mise en scène et de la métamorphose, vu notamment par la plasticienne Valérie Belin. Puis, pourquoi les musées sont-ils indispensables, en temps de crise comme en temps normal, lieu de culture et de pouvoir, l'historien Christophe Pomian nous raconte une histoire des musées.
La grande table, ce mardi sur France Culture à midi et sur franceculture.fr. Œil de biche, chevelure de jais, robe noire et mains papillonnant comme des sémaphores, Juliette Gréco incarne la chanson française qui a la poésie dans la peau.
Déshabillez-moi.
Gréco, reine de la nuit, a tiré sa révérence et nous l'écoutons en 2001, ronronner comme une tigresse au micro d'Hélène Azéra. Je suis faite comme ça, Gréco, à voix nue, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Je suis faite comme ça.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, c'est l'heure du monde vivant. Bruno David s'intéresse ce matin aux dauphins.
Les dauphins apprécieraient-ils la musique? Si l'on en croit une légende du 7e siècle avant Jésus-Christ, certainement. Le poète musicien grec Arion, abandonné en pleine mer par des pirates, fut en effet ramené au rivage par un dauphin mélomane, charmé par le son de sa lyre. Pas si étonnant, tant les mythes de diverses sociétés à travers le monde, de la Polynésie à la Méditerranée, convergent pour conter des sauvetages de naufragés par des dauphins. Il faut dire que les dauphins ont un air bien sympathique avec cette façon de surgir le long de l'étrave des bateaux comme pour les guider. Cette image positive a franchi les siècles pour se décliner au XXe siècle sous d'autres formes, notamment à la télévision avec Flipper le dauphin ou bien Oum le dauphin. Mais la palme revient au film Le Grand Bleu, qui illustre une relation quasi fusionnelle entre des hommes et des dauphins. Néanmoins, cette image positive dont jouit le dauphin engendre des siècles où l'animal était peu apprécié, voire détesté. Au Moyen Âge, le dauphin est considéré comme maléfique. Il est représenté à mi-chemin entre poisson et monstre marin. En 1596, une troupe de dauphins s'installe dans le port de Marseille, provoquant de nombreux dégâts. on alerte le cardinal légat d'Avignon. Celui-ci délègue à l'évêque de Cavaillon le soin d'exorciser les dauphins, leur ordonnant de ne pas rester sur place. L'histoire dit que les cétacés se le tinrent pour dit et ne reparurent plus. Plus tard, au XVIIIe siècle, les communautés de pêcheurs marseillais préconisent la chasse aux cétacés, tout en demandant aux autorités religieuses de poursuivre les exorcismes afin de chasser les démons du corps des dauphins. Le public presse même les autorités ecclésiastiques de prononcer des excommunications. Une punition très sévère, mais peu appropriée, car, pour paraphraser Voltaire, pourquoi interdire l'entrée de l'église aux dauphins, attendu qu'ils n'y vont jamais ? Il faut dire que le dauphin est quelque peu gourmand. Sa musculature puissante autorisant une nage rapide est une grande consommatrice d'énergie, et un dauphin avale sans broncher ses 15 kilos de poisson par jour. Sa technique de chasse est remarquable. Les dauphins détectent les poissons grâce à leur sonar. Ils s'organisent alors en groupe pour abattre et concentrer les poissons en un banc dense. Ils n'ont plus alors qu'à le traverser à vive allure en avalant anchois, sardines et merlus qui sont sur leur trajectoire. Une concurrence qui a de quoi inquiéter les pêcheurs. Sous la Troisième République, les dauphins qui ne sont plus considérés habités par le malin sont déclarés nuisibles. L'État instaure des primes d'abattage. En 1894, on équipe des sardines d'aiguilles perforatrices d'intestin afin d'éradiquer le nuisible. Mais comme les dauphins se méfient des poissons morts, le procédé n'a que très peu d'effet. En plus, les dauphins se sont peut-être passé le message, car ils communiquent fort bien. Il faut dire que leurs capacités auditives sont fantastiques. Ils perçoivent des fréquences de 160 000 Hz, là où l'homme se contente de 20 000. Alors pourquoi pas mélomanes, les dauphins ?
Culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine dans les petits matins de France Culture. L'écoute en ligne ou le podcast de l'émission sont disponibles sur l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation, assistée ce matin de Clément Daté à la prise de son. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos et aujourd'hui, cap sur le Vieux-Port de Marseille puisqu'on va parler de la grande exposition du MUCEM consacrée à l'Orient sonore. Une exposition à voir les oreilles grandes ouvertes. C'est jusqu'au 4 janvier 2021 et pour nous en parler ce matin, l'ethnomusicologue Jean Lambert. Bonjour Jean Lambert.
Bonjour.
Nous aurons également peut-être au bout du film depuis Dubaï, Kamel Kassar qui est l'initiateur et le commissaire général de l'exposition et le créateur de la fondation Amar pour l'archivage et la recherche sur la musique arabe.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
ما يخاف ربه ويتبغدد عقلي بحبه اي ويلو ما يخاف ربه ويتبغدد عقلي بحبه اي ويلو ما يخاف يا ويلو ما يخاف يا ويلو ما يخاف رب اي ويلو ما يخاف ربه ويتبغدد عقلي
Jean Lambert, comme l'exposition L'Orient sonore au MUCEM est à multiples entrées, je vous ai laissé le soin d'en choisir une, et sous forme de son, vous avez choisi cette chanson, ce chanteur libanais, et c'est un enregistrement qui date de 1946.
C'est ça. Alors, Elie Beida est un chanteur populaire libanais, on peut dire, qui était d'une famille très très modeste. C'était des maçons, des artisans. Et lui était un grand chanteur. Et puis également ses cousins ont en fait pour l'aider ont créé une compagnie de disques 78 tours Donc la première compagnie de disques 78 tours au Liban en 1907.
Et là, effectivement, on est au cœur de l'exposition parce que cette exposition propose d'écouter les premiers enregistrements de la musique arabe et comment la musique arabe va changer, va s'adapter à cette nouvelle technologie. Mais il y a tout l'Orient, hein, puisqu'il est question des musiques soufis d'Égypte, des chants de Bahri Koïtien, des Bahrain Koïtien ou des pêcheurs de Perlo Bahreïn, le Shabi Sefarad d'Algérie, le Mawel de Bagdad, des trans yézidis. On voyage donc du Mashrek au Maghreb dans cette exposition. On découvre les pochettes des premiers disques arabes enregistrés au début du XXe siècle. On voit des films anciens ou récents, spécialement conçus pour l'expo, qui nous font voyager dans l'Orient sonore, entre tradition et évolution. On écoute aussi des musiques anciennes, des genres disparus ou menacés. Et cette belle exposition s'est adaptée aux règles sanitaires imposées par la pandémie, puisque du coup, les musiques, on ne les écoute pas dans un casque, mais elles pleuvent sur nous durant les déambulations. On appelle ça des douches sonores, c'est ainsi qu'on appelle ce dispositif, Jean Lambert ?
Oui, c'est ça. Mais en réalité, justement, pour normalement, une douche sonore, ça se pratique avec, enfin, plutôt sans casque, mais on n'est pas isolé du reste de la salle. Et donc, je rappelle pour tous les gens qui veulent visiter l'exposition qu'il faut mieux venir avec son casque et son téléphone. Et à ce moment-là, on a un code-barre et on écoute tranquillement, sans être dérangé par les autres sons de l'exposition.
Alors, si l'intitulé de l'exposition, c'est l'Orient sonore, le sous-titre est tout aussi important puisque c'est musique oubliée, musique vivante. Mais c'est un sous-titre optimiste, hein, je dirais, Jean Lambert, parce que les musiques oubliées, c'est plutôt des musiques disparues, hein, comme le Shabi des Séfarades, ou carrément menacées, comme les musiques traditionnelles et religieuses yézidis.
Tout à fait, ce sont des musiques qui ont été donc enregistrées à partir des années, les premières années du XXe siècle, sur disque 78 tours. C'est le choix qu'a fait la fondation Amar dès le départ pour
De Kamel Kassar, donc le commissaire principal de cette exposition.
Tout à fait, qui donc a collecté les disques les plus anciens, ce qui permettait d'avoir effectivement le témoignage le plus ancien de toutes ces musiques. C'était des disques commerciaux essentiellement, mais très précieux, même si, bien sûr, ce sont des disques qui ne font que 3 minutes, 3 minutes et demie. Ce sont
des adaptations à la technologie.
Voilà, à de l'époque, exactement. Et donc, c'est des témoignages extrêmement précieux de ces époques-là, de ces musiques, qui ensuite ont été très affectés par le changement technologique, puisqu'ensuite il y a eu la radio, il y a eu le cinéma, il y a eu bien d'autres choses qui ont contribué aussi à faire disparaître cette première partie de la tradition arabe du XXe siècle.
Et puis il y a aussi les conflits, les guerres.
Bien entendu.
Alors Jean Lambert, vous êtes ethnomusicologue depuis plus de 30 ans, vous menez des recherches sur les sociétés et les musiques de tradition orale, vous avez beaucoup travaillé au Yémen d'ailleurs,
vous avez
vécu d'ailleurs,
Longtemps.
Et dans plusieurs autres pays arabes, comment est-ce que ça existe la musique arabe ? On peut dire musiques arabes, des musiques orientales.
Bien sûr, c'est la grande question que j'ai posée dans mon article, dans le catalogue de
très beau catalogue de l'exposition.
Ouais, merci. Effectivement, j'ai dit clairement qu'il valait mieux parler des musiques arabes au pluriel que de la musique arabe, comme c'est le cas traditionnellement. On disait toujours la musique arabe. Non, il vaut mieux parler au pluriel parce qu'effectivement, c'est un monde très très vaste. Ça comprend des centaines de millions de gens dans une vingtaine de pays, avec des histoires très très complexes et très très particulières. Mais en même temps, il est certain qu'il y a une histoire un peu commune, ou une histoire, quand même sur 14 siècles de diffusion de la culture arabe, à la fois vers l'ouest au Maghreb et en Afrique, vers l'est jusque dans le Golfe, et même plus loin en Irak, et même plus loin encore en Asie centrale. Donc voilà, il fallait réussir à rendre compte de cette multiplicité, et en même temps de rendre compte de cette histoire commune partagée.
Alors, s'il fallait justement raconter brièvement cette histoire commune partagée. Ce que vous dites, Jean Lambert, est très intéressant. Vous dites qu'au début du XXe siècle, avec l'arrivée des compagnies de disques, on a une photographie de ce qu'était la musique arabe à ce moment-là précis.
Voilà. Alors bien sûr, c'était des compagnies qui étaient étrangères au départ. Hein. C'était Gramophone, His Master Voice, après il y a eu Columbia et d'autres. Et c'est pour ça que je tenais à faire écouter Lia Beida tout à l'heure, parce que c'était la première compagnie libanaise qui s'appelait Beidaphone, donc du nom de la famille. En fait.
Absolument.
Voilà. Et donc, c'est seulement petit à petit que les intellectuels et les techniciens arabes se sont appropriés aussi la technique du disque et ont créé eux-mêmes des compagnies locales. Il y a eu aussi le grand chanteur Mohamed Abdel Wahab qui a racheté une partie de Beidaphone. Enfin bon, donc c'est une histoire aussi très intéressante et passionnante, cette histoire des compagnies de disques, bon, dans le monde arabe et dans le monde entier d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais dans le monde arabe, bien sûr, ça a produit des effets particuliers sur la musique, la longueur. Bien sûr, étant très limité de 3 minutes, ça limitait quand même la richesse qu'on pouvait traduire dans ces enregistrements très brefs. Mais on faisait aussi, par exemple, des séries, donc de plusieurs enregistrements pour une soirée ou des choses comme ça.
Aziza Hilmi, chanteuse égyptienne, cet enregistrement date de 1927. Jean Lambert, vous avez parlé bien sûr des compagnies de disques donc, qui arrivent au début du XXe siècle dans le monde arabe et qui vont accélérer un processus d'évolution, hein, ne serait-ce que pour pouvoir enregistrer sur des temps très courts des chants, des chansons, ou même des fêtes qui prenaient plus de temps. Mais il n'y a pas que les compagnies de disques, il y a aussi la radio, il y a aussi le cinéma.
Oui,
mais s'il fallait raconter l'histoire de la musique arabe jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de cette technologie.
Tout à fait. Alors, on va saisir justement l'occasion de cet enregistrement qui vient d'Égypte, hein. Et naturellement, le centre de toute cette histoire-là, c'était l'Égypte. Et effectivement, dès le 19e siècle, on voit apparaître à la cour des Khédives d'Égypte, donc des princes ou des rois d'Égypte, une tradition assez savante, protégée par le souverain ou par leur famille, et qui va donc créer une musique, on peut dire, qu'on peut appeler classique, bon, bien que ce mot soit pas toujours très satisfaisant, mais on voit à peu près de quoi ça parle. Donc il y a eu
ça parle de quoi, d'instruments introduits.
Voilà, donc il y avait des instruments, le qanoun, le oud, le violon qui lui a été introduit de l'Europe. Et puis des grands chanteurs comme Abdou Hamouli, grands compositeurs comme Mohamed Rassman. Et ces gens-là n'ont pas été enregistrés, ou alors très très peu, mais on connaît quand même leur histoire. Tout au long du 19e siècle, ils ont produit vraiment des chants merveilleux. Et leurs successeurs, au tout début du 20e siècle, donc Youssef El Manialaoui, Abdelhaï Helmi et d'autres, ont été, Salama Hegazi aussi, eux ont été enregistrés. Donc en fait, c'est des témoins de cette période que nous n'avons pas pu enregistrer, mais qui était toute proche avant et qui avait créé les formes. Entre autres, par exemple, une forme qu'on appelle le Dor, qui est vraiment une création du 19e siècle. Et on a donc beaucoup d'enregistrements de ce Dor par ces grands chanteurs égyptiens des années 10-20.
يا حال من قلبك
لا والنبي
تريد انسى تعبك لا والنبي لا
France Culture Le Réveil Culturel Toufik Hakem.
Voilà, alors c'est quoi la grande influence de ces musiques arabes au début du XXe siècle?
Alors déjà, le disque a commencé à leur donner une certaine influence, parce que ces disques-là étaient diffusés dans tout le monde arabe, bien sûr. Et puis ensuite, il y a eu la radio, et ensuite il y a eu le cinéma. Donc années 20, années 30. Et là, bien sûr, avec Oum Kalthoum, Mohamed Abdel Wahab, premier concert à la radio, des concerts assez longs. Là, on commence à avoir des enregistrements plus longs. Et puis, bien sûr, les films musicaux arabes, égyptiens.
Mais s'il fallait remonter plus loin, Jean Lambert, vous dites que chez les Arabes, il y a quand même deux inspirations. L'inspiration religieuse, hein, ouais, bien sûr, avec l'arrivée de l'islam. Il y a aussi une autre source, c'est la partie des chants des nomades.
Tout à fait, mais il y a d'autres inspirations aussi importantes. Hein, donc les nomades d'Arabie, bien sûr, puisque le monde arabe est né, en fait, en gros, dans le Hijaz à la Mecque. C'est là où le premier État arabe avec l'islam s'est diffusé dans le monde entier. Donc les nomades ont beaucoup contribué, naturellement, à constituer toutes ces armées-là. Mais il y a eu donc la tradition religieuse qui s'est diffusée, notamment avec le Coran et les appels à la prière et tout ça.
Donc ça, c'est le chant, plutôt.
Le chant, plutôt, oui. Mais tout ça était très, très vocal. Hein. Et puis, il y a eu aussi des influences des monothéismes qui avaient précédé l'islam, donc notamment le chant byzantin, le chant de la synagogue juive, qui ont aussi énormément influencé le chant religieux, et lui-même a influencé ensuite le chant profane. Donc ce sont des rencontres et un ensemble de métissages qui se sont faits au cours de 14 siècles. C'est une histoire très
longue. Voilà, et cette histoire que raconte très bien d'ailleurs l'exposition « L'Orient sonore ». Au bout du fil, Kamel Kassar, qui est le créateur de la fondation Amar et qui est aussi le commissaire principal de cette exposition qui a lieu au MUCEM en ce moment jusqu'au 4 janvier, L'Orient sonore, musique oubliée, musique vivante. Bonjour Kamel Kassar.
Bonjour.
Et cette exposition, on en parlait avec Jean Lambert, c'était aussi l'inventaire des musiques arabes et orientales perdues.
Bien sûr, parce que même ces musiques légères ou qu'on appelle les musiques populaires citadines qui étaient très populaires au début du siècle, au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, elles étaient très populaires et très riches en musicalement. Et pour des raisons multiples, ces musiques ont été totalement oubliées.
Avec Jean Lambert, on parlait effectivement de l'arrivée des maisons de disques, de la radio, et l'un et l'autre vont imposer des formats, et ensuite le cinéma. Mais ce qu'on voit dans cette exposition, c'est aussi la fin de quelques cultures qui ont disparu avec leur musique. Je pense notamment, on a parlé des musiques séfarades, mais on peut même parler des musiques sacrées des yézidis.
Oui, c'est-à-dire, nous, dans notre recherche de documenter toutes ces musiques très riches, très variées dans ce monde arabe, on a cherché, avec les films, à enregistrer certaines musiques qui sont en voie de disparaître et qui sont des musiques populaires, pas citadines, mais plutôt populaires. Quoi.
Merci beaucoup. Et oui, Kamel Kassar, vous vouliez terminer.
Ces musiques-là, c'est une petite poignée de ce qui est, de ce qui existe, de ce qu'il faut sauver. On a pour le moment 12 exemples qu'on a présentés au MUCEM, mais il y en a beaucoup, 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 et il va falloir tout documenter.
Merci beaucoup, Kamel Kassar de Dubaï. Jouer des musiques en voie de disparition, c'est aussi le but de cette exposition, L'Orient Sonore. On vient d'entendre Kamel Kassar en parler, d'où les films que vous avez tournés spécialement pour cette exposition, Jean Lambert.
Oui, tout à fait. Alors, je résume un petit peu l'exposition pour que les gens comprennent bien. Vous avez d'abord une grande quantité de disques 78 tours, mais vous avez donc devant vous l'original, c'est ça le côté muséal qui est important quand même. On voit un disque ancien qui a 70 ans, 80 ans, etc., des fois 100 ans. Et puis, vous avez la douche sonore qui vous envoie bien sûr la musique, comme on a dit. Et puis, effectivement, à côté
de
ça...
Il y a des films, des archives
films. À côté de ça, il y a des films qui ont été, donc des vidéos qui ont été tournées par un vidéaste tout à fait remarquable de la Fondation Amar qui s'appelle Fadi Yeni Türk, qui donc concerne effectivement des traditions en voie de disparition d'aujourd'hui, plutôt, comme le disait Kamel Kassar, des traditions populaires, mais tout à fait remarquables et rares, donc les yézidis de l'Irak, mais il y a aussi des gitans d'Irak qui chantent et qui dansent, absolument merveilleux.
C'est effectivement merveilleux.
Voilà, il y a une très très belle tradition aussi, très très archaïque de poésie chantée, improvisée du sud de l'Égypte, du Saïd. Alors ça, on est sûr que dans 5 ans, de toute façon, ça aura disparu. Voilà, que des choses comme ça, donc très rares et magnifiquement filmées, avec vraiment un son musical magnifique aussi. Et ça, vraiment, c'est un bijou dans cette exposition.
L'exposition L'Orient Sonore, musique oubliée, musique vivante, c'est au MUCEM et c'est jusqu'au 4 janvier.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et comme on sait, vous êtes un grand amateur de musique arabe et surtout d'instruments de musique arabe. On va retrouver une sélection des instruments que vous chérissez le plus, Jean Lambert, à la page de l'émission. Lequel des instruments vous aimez le plus?
Ah bah surtout le kombus.
Bah voilà,
j'en étais sûr. C'est un petit luth. Merveilleux.
Et avec vos commentaires, merci beaucoup d'être passé ce matin. Nous, on se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.
Culture, l'esprit d'ouverture.
François Mitterrand est élu président
de la série d'espionnage au cœur des services secrets des années 80, projet Orlov sur France Culture. Eh bien, passez-moi la communication dans le salon bibliothèque.
Un agent disparaît, crise à l'Elysée, ambassade sur écoute, course-poursuite de Londres à Genève jusqu'aux portes du désert algérien. Projet Orlov, série d'espionnage haletante, entièrement tournée en décor naturel, le feuilleton à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Amnesty International dénonce un système français destiné à réprimer des manifestants qui souvent n'ont pas commis d'infractions. L'ONG publie ce matin un rapport épinglant les forces de l'ordre en France et la justice, notamment lors du mouvement dit des Gilets jaunes. Nous vous détaillerons ce rapport dans un instant. Vous entendrez ensuite la détresse du chef étoilé Philippe Echtebest qui se veut fer de lance de la contestation des restaurateurs face aux mesures sanitaires. Hier, les établissements d'Aix et de Marseille ont dû faire les bars de 11 grandes villes ont fermé leurs portes à 22h. Après des mois d'invectives, l'heure du face-à-face a sonné aux États-Unis. Donald Trump et Joe Biden se retrouvent ce soir pour un débat à 35 jours de la présidentielle. Les attentes d'un électeur américain dans ce journal. Et puis nous irons au Kenya, où les États-Unis pourraient exporter 500 millions de tonnes de déchets chaque année. Cela s'inscrit dans un accord commercial qui est discuté en ce moment. Elle parle d'acharnement judiciaire. Dans un rapport publié ce matin, l'ONG Amnesty International dénonce les arrestations de milliers de manifestants pacifiques en France depuis fin 2018, comprenez pendant la période des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. Amnesty International démontre comment l'arsenal législatif est instrumentalisé par les autorités, à savoir les forces de l'ordre et le parquet. Chiffres à l'appui, Anne Fauquemberg.
De novembre 2018 à juillet 2019, selon les remontées des parquets, plus de 11 000 manifestants ont été placés en garde à vue. Amnesty International explique aujourd'hui que plus de la moitié de ces arrestations et gardes à vue n'ont débouché sur rien. C'est pourquoi l'ONG dénonce des lois problématiques et vagues qui conduisent à de telles dérives. Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté, cite l'exemple du délit d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, un délit utilisé selon elle dans un sens trop large.
On a eu le cas d'une personne qui a eu un rappel à la loi pour une banderole sur laquelle il était écrit « Oui au muguet, non au LBD ». Ce type d'expression ne relève pas de l'appel à la haine, de l'incitation à la discrimination, à la violence ou à l'hostilité et ne devrait pas être pénalisée.
Dans le contexte de la pandémie et de l'obligation du port du masque, Amnesty International demande aussi au gouvernement de revenir sur la loi dite anti-casseurs votée en 2019 et qui avait créé un nouveau délit de dissimulation du visage.
De manière générale, une interdiction générale de ce type-là, ça va être contraire au droit international. Dans le contexte Covid, ça n'a plus aucun sens.
L'organisation est d'autant plus vigilante qu'elle n'a pas été convaincue par le nouveau schéma du maintien de l'ordre publié le 17 septembre dernier. Un schéma destiné à répondre aux nouvelles formes de manifestation avec des mouvements sans organisateur ou des stratégies de blocage ou d'occupation. L'ONG voit surtout un cadre juridique contraire au droit international où l'usage de la force est toujours central.
En cette rentrée 2020, c'est contre les mesures sanitaires qu'une partie des Français protestent maintenant. Depuis hier, les bars et les restaurants sont dans l'obligation de baisser totalement leurs rideaux à Marseille. Dans les autres grandes villes en alerte renforcée, les bars doivent fermer à 22h. Une décision que beaucoup jugent incompréhensible, à l'instar du chef étoilé Philippe Echebest. Il appelle les commerçants à une action symbolique vendredi à 11h45, tous devant son commerce, dit-il.
C'est pacifiste, hein, je veux dire, pas de violence, pas de désobéissance, vraiment je n'encourage pas ça, mais juste de montrer qu'on est là et qu'on est en train de mourir et qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y a quand même un mètre de distanciation sociale qui nous a été imposé et tous les protocoles nous ont été imposés et on les respecte jusque-là. Donc pourquoi on serait plus dangereux? On arrive à peine à sortir la tête de l'eau et on nous enfonce encore plus pour nous noyer. Donc moi je soutiens, comme beaucoup d'autres, mes collègues marseillais et d'Aix en Provence et de Guadeloupe aussi, qui subissent encore une fermeture alors que c'était déjà très compliqué. compliqué.
C'était Philippe Etchebest avec Jean-François Akili. Hier à Paris, de premiers contrôles de bars, restaurants ont eu lieu. De la pédagogie avant de premières amendes prévues ce soir. Reportage dans les rues de la capitale dans le journal de 7h sur France Culture. Précisons aussi que c'est cet après-midi à 15h que sera examiné le recours en référé déposé par le président de Provence-Alpes-Côte d'Azur contre les fermetures des établissements. D'ici 2022, année de la présidentielle, le gouvernement espère avoir effacé les ravages de la crise sanitaire sur l'économie française. Cela passe par un budget de relance, quitte à creuser les déficits. Au cœur du dispositif qui a été présenté hier, le plan de 100 milliards d'euros destiné à ramener la France sur le chemin de la croissance. La stratégie gouvernementale consiste notamment à soutenir toutes les entreprises en réduisant de 10 milliards d'euros les impôts de production. Ce mardi, par ailleurs, c'est le budget de la sécurité sociale pour l'année prochaine qui sera présenté. Après un déficit record de plus de 4,5 milliards d'euros, une perte de 25,5 milliards d'euros est attendue pour l'année 2021. Pour expliquer tous ces choix budgétaires et politiques, le chef du gouvernement veut travailler avec la majorité. Jean Castex réunit donc aujourd'hui à 18h une partie du gouvernement et les cadres de cette majorité présidentielle. Un séminaire de travail, 15 jours après avoir déjà rassemblé les députés LREM, Modem et Agir pour tenter de poser les jalons d'un intergroupe parlementaire. Le Premier ministre, sous l'égide du président, a besoin de passer à la vitesse supérieure, Rosalie Lafarge.
Le temps est compté. Il reste maintenant moins de 600 jours avant la présidentielle et le calendrier parlementaire est chargé. L'exécutif veut détailler aux élus ses priorités, s'assurer qu'au sein des groupes de la majorité, à l'Assemblée et au Sénat, on avance main dans la main avec le gouvernement. Si Matignon met en avant une réunion de méthode, chez les élus, on reconnaît qu'il est aussi question de dégager des positions communes sur les gros sujets à venir, susceptibles de provoquer quelques tensions. Le projet de loi séparatisme, par exemple. La volonté collective d'apaisement est là, mais il reste du boulot, admettre un cadre d'En Marche. En pleine période de crise, il faut bien huiler la machine pour éviter qu'elle ne s'enraye, poursuit un responsable de la majorité. Si on construit ensemble en amont, c'est plus simple de voter ensemble en aval, ajoute ce haut placé à l'Assemblée. Les élus en sont conscients, ce type de réunion peut passer pour de la tambouille interne et dans le contexte, ce n'est peut-être pas le moment de faire la cuisine, grince un marcheur. Ce que balaie un autre député de la majorité, il faut, résume ce parlementaire, faire en sorte que les cuisiniers s'entendent pour que le plat ait meilleur saveur quand il sera servi aux Français.
La présidentielle américaine aura lieu dans 35 jours, le 3 novembre prochain. Et ce sera la nuit prochaine le premier débat entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden. Un débat organisé dans l'Ohio, à Cleveland, dans une université. Les militants sont déjà sur les lieux. Steve l'est également. Cet électeur indépendant attend beaucoup de ce moment.
Ça fait près d'un an que j'attends ce débat parce que je pense que ce débat peut annoncer le nom du vainqueur de l'élection cette année. Il y a tellement d'enjeux pour l'avenir de ce pays. Personnellement, j'espère que les deux candidats vont vraiment pouvoir expliquer qui ils sont. Et ce qu'ils veulent faire pour l'Amérique, vous savez, hein. Aujourd'hui le pays est très divisé, c'est vraiment triste comme situation, donc on a besoin de quelqu'un capable de nous rassembler, quelqu'un qui dans les quatre prochaines années saura mettre un terme à toutes ces divisions.
Des propos recueillis à Cleveland par Gregory Phillips à la veille donc d'un débat auquel Donald Trump pourrait arriver affaibli. Hier, le New York Times révélait que l'homme d'affaires avait payé très peu d'impôts en 2016, année de son élection, pas du tout 10 ans avant. Trump, le businessman, sera au cœur de la revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. Les Américains encore et leur impact cette fois au Kenya. Washington est en discussion avec Nairobi pour un accord commercial, accord qui pourrait prévoir l'exportation de déchets plastiques vers le Kenya. On parle de 500 millions de tonnes de déchets américains exportés chaque année. Jusqu'en 2018, c'était la Chine qui en importait la majorité, mais elle n'en veut plus. Le Kenya pourrait donc faire office de nouvelle destination, Charlotte Simonard.
Officiellement, les États-Unis veulent aider le Kenya à développer une industrie du recyclage. Promesse d'emploi à la clé et même d'accès au marché américain pour les produits kényans. Un accord alléchant alors que l'économie kényane est au plus mal suite à la crise du coronavirus. Mais un accord qui serait catastrophique pour l'environnement. Frédéric Njehu, responsable de l'ONG Greenpeace au Kenya.
Le Kenya n'a absolument aucune capacité de recyclage et encore moins de stockage pour ces millions de tonnes de déchets qui viendraient des États-Unis. De plus, seuls 7% de ces déchets peuvent être recyclés. Le reste terminera dans les décharges. C'est une menace énorme pour la vie marine, les rivières, les sols, sans parler des fumées toxiques qui s'en dégageront.
Le président kényan s'est déjà dit impatient de signer cet accord commercial qu'il compte bien mettre à son actif à la fin de son mandat en 2022. Ce serait le premier du genre conclu par les États-Unis avec un pays d'Afrique subsaharienne. Frédéric Ngehou.
Cet accord commercial est totalement déséquilibré. Nous négocions avec plus fort que nous. Le Kenya va devoir revoir à la baisse ses standards environnementaux au nom des investissements américains et d'un libre accès à leur marché. Par extension de cet accord, les Américains voudront à l'avenir exploiter nos ressources naturelles, ce qui compromet notre développement.
Les négociations sont encore en phase préliminaire. Elles devraient démarrer d'ici décembre prochain.
C'était Charlotte Simonard à Nairobi pour France Culture. Le temps de ce mardi sera pluvieux sur le nord-ouest de la France, plus lumineux au sud, avec 11 degrés ce matin à Lyon, 14 à Paris, Rennes, Strasbourg, 16 degrés à Nice. Vous écoutez toujours France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
La course au vaccin contre le Covid-19 a déclenché une compétition effrénée entre les grandes puissances. L'occasion, Jacques, dans votre journal des idées ce matin, de rappeler les principes éthiques et méthodologiques de la science.
Je vais m'y employer très modestement, Clara. L'OMS suit plus de 170 projets de vaccins à travers le monde et le pouvoir politique a une fâcheuse tendance à faire pression pour accélérer les recherches, comme en Russie ou aux États-Unis, sans doute aussi pour se dédouaner d'une gestion calamiteuse de la crise sanitaire. L'hebdomadaire Marianne consacre un dossier à la question et Brice Perrier revient sur les dangers d'essais biaisés pour favoriser les autorisations de mise sur le marché de médicaments à l'efficacité douteuse. Quantité de biais, écrit-il, peuvent fausser l'apparence d'une étude, le plus simple étant de ne pas publier les mauvais résultats. Exemple récurrent depuis une dizaine d'années, les nouveaux médicaments contre le cancer, les essais cliniques font état d'une amélioration selon des critères pas forcément centrés sur l'état réel du patient, en se focalisant par exemple sur la taille d'une tumeur sans tenir compte des métastases ou de la survie du malade. Le prix de ces nouveaux médicaments est multiplié par 5 par rapport à l'existant, ça ne se justifie absolument pas, juge le professeur Bruno Falissard. Le rapport coût-efficacité se pose pour tous les médicaments, nos autorités de santé n'étant pas capables de dire non à l'industrie, ajoute-t-il, estimant que les firmes ne devraient pas faire les études pour évaluer leurs produits. Et Bernard Bégaud, directeur de l'unité de recherche à l'INSERM, déplore l'affaiblissement progressif de l'expertise indépendante qui laisse trop l'industrie imposer son jeu et la connivence s'installer. Un problème qui pose également la question lancinante de l'autonomie de la recherche scientifique, ainsi que celle de son dévouement au service du lobbying des industriels pour orienter le débat sur les sujets sanitaires ou environnementaux. Les journalistes du Monde, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, avec le sociologue Sylvain Laurent, publie à la découverte une enquête sur les nouvelles stratégies via les réseaux sociaux pour peser dans le débat scientifique à propos du glyphosate, des OGM ou du climato-scepticisme. Son titre, « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Je cite le nouvel horizon du lobbying scientifique et le citoyen ordinaire, le micro-influenceur, transformé en relais de terrain, il diffuse des argumentaires conçus et façonnés par d'autres. Les autres, c'est toute une nébuleuse de communicants pseudo-scientifiques qui organisent la fabrique du doute en se réclamant du rationalisme et de la science. L'affaire n'est pas nouvelle, on se souvient du lobby de l'industrie du tabac dont les archives déclassifiées ont révélé les mensonges à coups de rapports signés par des chercheurs appointés. Par une curieuse inversion de la charge de la preuve, les fabricants de doutes se réclament aujourd'hui d'un rationalisme qu'ils opposent à la peur dite irrationnelle face aux avancées à marche forcée de la technostructure. Après un siècle d'affaiblissement, le rationalisme n'est plus la défense de l'autonomie savante, mais devient un combat artificiel pour défendre le droit de dire des choses fausses, comme le fait que le climat ne change pas, résume Sylvain Laurent sur Libération.fr. Dans la revue Zilzel, Bruno Andreotti revient en détail sur l'histoire et l'actualité de cette mouvance pseudo-rationaliste. Le physicien qui défend l'idée de renouer avec l'éthique de la disputatio et le savoir comme horizon commun passe en revue les contempteurs actuels de cette catégorie vague mais omniprésente, baptisée alternativement bien-pensance ou politiquement correcte, droit de l'homisme ou postmodernisme, avec un répertoire très limité d'éléments de langage, sans s'intéresser aux résultats qui paraissent dans la littérature scientifique. Il s'emploie à faire le buzz en créant la confusion entre les anti-vaccins et ceux qui doutent des bienfaits de la 5G ou s'inquiètent du réchauffement climatique. Bruno Andreotti pointe les relations des initiateurs de cette mouvance avec les négationnistes et ses ramifications douteuses aujourd'hui. Difficile dans le cadre de cette chronique de citer cette filiation très documentée avec les noms de ces petites mains de la désinformation méthodique. L'article est en lien sur ma page du site franceculture.fr. Qu'il suffise de rappeler les affinités de cette rhétorique avec celle du négationnisme dans une conférence sur le nouvel extrémisme de droite. Adorno évoquait la méthode Salami, qui consiste à prendre un ensemble complexe, à en découper un morceau puis un autre, avec cette, je cite, cette pédanterie pseudo-scientifique qui caractérise ces mouvements. On remet en question le nombre des juifs assassinés. ...6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Aujourd'hui, l'Algérie va-t-elle changer de doctrine militaire ?
Une réforme constitutionnelle pour l'Algérie, c'était l'une des promesses du président Abdelmadjid Tebboune lors de son élection en décembre dernier après la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Une manière de faire un geste de bonne volonté vis-à-vis du Irak, le mouvement populaire pacifique né quelques mois plus tôt pour exiger des changements politiques profonds. Alors le nouveau texte constitutionnel sera soumis à référendum le 1er novembre prochain. On en connaît déjà les dispositions puisque l'avant-projet a été soumis récemment au vote du Parlement. Les membres du Irak, contraints de se mettre en pause pendant la crise sanitaire, relèvent déjà que leurs doléances n'ont pas été entendues. Et parmi les articles qui font débat, celui-ci qui concerne en effet l'armée algérienne, elle pourra désormais opérer en dehors de ses frontières. Alors pourquoi cet article pose-t-il question ? Ses détracteurs le disent, spécialement conçu pour ménager au nouveau pouvoir algérien le soutien de la France. Bonjour Farida Souya.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, chercheuse associée au laboratoire méditerranéen de sociologie, le LAMES, à l'université Aix-Marseille. Alors aujourd'hui, Farida Souya, quel rôle la constitution algérienne confère en l'état à l'armée ? Son rôle très politique est-il inscrit dans la constitution déjà ?
Si vous me permettez de faire un petit détour historique, en fait, historiquement, l'armée algérienne a un grand rôle conféré par la Constitution. À titre d'exemple, la Constitution de 1976 l'a considérée comme gardienne de du socialisme, comme instrument de la révolution. Ce rôle, il s'est un peu concentré sur des missions un peu plus traditionnelles d'une institution militaire, l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'humanité, à partir de 1989. Et c'est vrai, cette nouvelle constitution, en fait, elle va en contre-mouvement, entre guillemets, puisque elle octroie un plus grand rôle à l'armée, puisque il y a un nouvel article, l'article 30, qui prévoit que l'armée défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles. Cependant, en fait, c'est comme si la Constitution venait adouber a posteriori le rôle qu'a joué l'armée, par exemple, ou qu'a voulu jouer l'armée en 2019. Donc, bien que ce rôle politique soit pas forcément inscrit dans la Constitution, l'armée l'occupe d'ores et déjà.
Dans le projet de Constitution tel qu'il a été présenté, l'armée algérienne pourra aussi intervenir hors de ses frontières, hors du territoire algérien. Pourquoi jusqu'à présent elle était, puisque vous faites un détour par l'histoire, circonscrite dans ses frontières ? Quelle raison historique le justifie ?
Je pense que la première raison historique qui fait que il y a une doctrine assez stricte de non-intervention de la part de l'armée algérienne, c'est l'histoire coloniale et de la décolonisation. C'est un pays qui a souffert de l'impérialisme et qui par la suite s'est pleinement engagé dans le mouvement des non-alignés. La deuxième raison, je pense, et peut-être celle qui a le plus compté dans l'histoire récente du pays, c'est que l'Algérie veut recevoir cette non-intervention. Et donc, comme c'est un pays très jaloux de ce qui se passe sur son territoire et de sa politique, eh bien, elle applique cette même chose, cette même doctrine à l'égard de l'extérieur. Et peut-être enfin, si on devait expliquer cette doctrine de non-intervention, c'est aussi par le rôle que veut jouer l'Algérie sur la scène internationale et plus spécifiquement sur la scène régionale. Elle veut se présenter plutôt comme médiateur, comme arbitre, et à cet égard, de dire que c'est un pays qui n'intervient pas directement par des opérations militaires est assez dans cette logique-là.
Alors cette doctrine de non-intervention, elle a été respectée donc depuis la première constitution juste après l'indépendance en 63, sauf à deux reprises, les deux guerres israélo-arabes, l'armée algérienne est intervenue.
Oui, alors c'est une doctrine qui a été plutôt respectée dans l'histoire algérienne. Il y a eu en revanche des opérations militaires, bien sûr dans le cadre des guerres israélo-arabes auxquelles vous faites référence, mais il y a pu avoir aussi des interventions hors du territoire algérien pour des opérations plus courtes, notamment dans le cadre de ce qui s'est passé dans le Sahara occidental, en Mauritanie, etc. Et puis aussi, en tant que membre de l'ONU, l'Algérie a pu envoyer des contingents en tant que casque bleu dans des opérations de maintien de la paix. Mais en effet, c'est assez rare dans l'histoire du pays qu'on intervienne à l'extérieur.
Alors pourquoi une telle disposition? Quel besoin immédiat d'envoyer l'armée à l'extérieur? Qui le lui demanderait, puisque c'est ce que disent les détracteurs de cet article, de ce texte en général, c'est que le fait d'autoriser l'armée à opérer sur le sol extérieur à l'Algérie, c'est une façon d'adresser un message aux partenaires étrangers, et notamment la France. Farida Souya,
alors,
êtes-vous avec
nous? J'aurais plusieurs éléments à répondre à cela. Oui, mais je suis un petit peu en décalé.
D'accord, pense. Alors nous vous écoutons, je vous écoute.
Alors, l'armée, en fait, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, comme je vous le disais. Le premier élément, ça peut être un élément dissuasif. Bien sûr, l'Algérie est directement concerné par ce qui se passe à ses frontières, et notamment ce qui se passe en Libye. Et on a vu que quand le Parlement turc a autorisé la Turquie à intervenir militairement en Libye, eh bien l'Algérie s'est prononcée fortement contre cette intervention. Eh bien, c'est aussi peut-être de dire on a les capacités de déploiement et on est directement concerné par ce qui se passe à nos frontières. Le deuxième élément, c'est celui à laquelle votre question pointée. En effet, l'Algérie, avec cette nouvelle présidente, ce nouveau président plutôt, et qui est à la recherche d'une légitimité sur la scène internationale aussi, puisqu'elle est et ce nouveau président est quand même très contesté à l'intérieur du pays. Et donc, avoir des alliés, se présenter comme un allié fiable, notamment sur les questions de sécurité, c'est important. En revanche, étant donné l'histoire politique du pays,
on vous écoute, hein, Farida.
Je pense que, en réalité, il n'y aura pas forcément d'intervention extérieure immédiatement, et surtout, elles ne se feront pas à la demande de la France ouvertement. Ça se fera, la Constitution le prévoit plutôt dans des cadres d'instances internationales, et ça se fera aussi peut-être à la demande des États directement concernés.
C'est-à-dire que les Algériens eux-mêmes, vous parliez de la Libye, par exemple, d'une éventuelle intervention en Libye, les Algériens eux-mêmes, est-ce qu'ils ont très envie que leur armée aille s'empêtrer dans le bourbier libyen? Peut-être si on leur présente l'intervention comme un impératif de sécurité nationale, s'il s'agit par exemple de lutter contre l'État islamique, mais à part ça, est-ce que l'opinion publique algérienne peut soutenir un tel texte ?
Je pense que les Algériens, comme des citoyens de beaucoup de pays, ne veulent pas forcément que leur armée en fait s'engage à l'extérieur, sauf si ça concerne la stabilité et la sécurité du pays directement. En revanche, ce qui est important aussi de noter, c'est que l'Algérie a quand même une armée puissante. Dans les index internationaux en général, on considère que l'armée algérienne est la deuxième plus puissante de l'Afrique, l'une des trois plus puissantes du monde arabe, etc. C'est une armée à la fois qui est de plus en plus professionnelle, mais aussi une armée de conscription, donc qui a beaucoup d'hommes, entre guillemets. Donc ce n'est pas une armée faible, entre guillemets. En revanche, je ne pense pas qu'elle va s'engager de façon légère sur des territoires étrangers directement. Je pense que c'est plutôt, ça va être plutôt des choses qui sont de l'ordre du dernier recours.
Voilà, il faut rappeler d'ailleurs que tout ce qui figure dans la constitution algérienne n'est pas toujours appliqué à la lettre. Alors, est-ce que c'est parce que la constitution algérienne intégrera sans doute bientôt cette disposition-là que l'armée algérienne sera régulièrement appelée à intervenir en dehors des frontières. C'est très souvent que des dispositions constitutionnelles en Algérie ne sont pas appliquées, confèrent tout ce qui concerne les libertés, liberté de la presse, notamment.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En réalité, on est sur un système qui fonctionne sur une dualité entre le de jure et le de facto. Je le disais au début de cet entretien, ce n'est pas parce que la Constitution ne prévoyait pas le rôle de l'armée que l'armée n'a pas occupé de rôle dans la vie politique. Ce n'est pas parce que la Constitution garantit un certain nombre de libertés, notamment de liberté de réunion, d'expression, etc., que ces libertés sont garanties. Et ça, malheureusement, on l'a bien vu dans le contexte actuel qui a été marqué à la fois par la crise sanitaire, mais le régime algérien a, entre guillemets, profité en fait de cette crise sanitaire pour réprimer de façon plus ouverte les manifestants du Hirak. Et ça, peut-être, ce qu'il faut noter, c'est que cette répression, en fait, elle s'inscrit dans une narration, dans une mise en récit du Hirak. Par exemple, on ne l'a pas dit, mais dans le préambule de la Constitution, le mouvement social est reconnu, en fait, comme étant à l'origine de cette nouvelle Algérie. Eh bien, en fait, le régime essaye de dire, eh bien, il y a un équilibre. Il y a le vrai Hirak et le faux Hirak, celui qui a continué après la démission de Bouteflika. Il y a les personnes qui continuent à manifester pour déstabiliser le pays, etc. Et ceux-là sont directement la cible de la répression parce qu'on fait d'eux des ennemis, en fait, de la souveraineté, de la stabilité, etc.
Voilà, le nouveau président dit que le Hirak est béni lorsqu'il parle du Hirak qui a mis dehors Bouteflika, mais ensuite, depuis son élection, ceci dit, élection obtenue avec une très faible légitimité populaire, hein, le taux de participation en décembre dernier n'atteignait pas les 40% pour le nouveau président Tebboune. Pour conclure, en quelques mots, ce projet de constitution, est-ce que les représentants du peuple, les parlementaires, en ont un tant soit peu pris part, ou est-ce que le président Tebboune l'a rédigé seul, lui qui promettait de mettre fin à l'hyper-présidentialisation?
En fait, le processus même a été problématique. On voyait d'ailleurs que parmi les revendications du mouvement, il y avait cette question d'une assemblée constituante. Eh bien, cette assemblée constituante ne s'est pas déroulée et on a eu un comité d'experts qui a rédigé un projet de constitution qui a été adoubé par le Parlement et qui là va être soumis par référendum, sachant que les consultations électorales sont à bien des égards performatives dans le système politique algérien. On a eu plein d'élections avec un candidat, on a eu plein d'élections avec un taux de participation très faible. Et c'est juste pour valider. Donc la constitution va passer le 1er novembre. C'est un vote de forme plutôt qu'un vote réel.
Merci. Et en effet... voilà, on verra si le taux de participation sera plus élevé que pour la présidentielle de l'année dernière. Merci beaucoup Farida Souya d'avoir été avec nous. Pardon pour la liaison parfois un petit peu chaotique. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée au Laboratoire méditerranéen de sociologie à l'Université Aix-Marseille. Bonne journée à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À midi sur France Culture, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table. Avec l'exposition star de cette rentrée, Cindy Sherman à la Fondation Vuitton, son art de la mise en scène et de la métamorphose, vu notamment par la plasticienne Valérie Belin. Puis, pourquoi les musées sont-ils indispensables, en temps de crise comme en temps normal, lieu de culture et de pouvoir, l'historien Christophe Pomian nous raconte une histoire des musées. La grande table, ce mardi sur France Culture à midi et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Et bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume, et si Ruth Bader Ginsburg avait accepté de démissionner?
L'histoire que je vais vous raconter est rapportée par le New York Times, Julie. En juillet 2013, le président Barack Obama avait invité la juge Ruth Bader Ginsburg à déjeuner à la Maison Blanche. Il ne s'agissait pas d'un déjeuner comme les autres. Il y avait eu beaucoup de précautions prises pour que ce déjeuner soit très discret. Alors on ignore ce qu'ils ont mangé, mais au menu des discussions, un sujet central mais contourné puisque impossible à aborder frontalement, la démission de la juge Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême des États-Unis, RBG, comme on la surnomme, était alors âgée de 80 ans. Elle avait affronté deux cancers. Le président Obama avait dû mobiliser tout son sens de la diplomatie pour évoquer les élections à mi-mandat de 2014 et la perspective pour les démocrates de perdre la majorité au Sénat. Mais RBG refusa d'entendre ce que Barack Obama avait à lui dire. Interrogé quelques temps plus tard sur le motif de ses déjeuners et sur les propositions qu'aurait pu lui faire le président, elle se contenta de dire que l'éventualité de quitter la Cour suprême la regardait elle et elle seule. Alors bien évidemment, aujourd'hui, les démocrates américains regrettent cette occasion manquée, puisque si l'icône RBG avait accepté de quitter la Cour il y a 7 ans, Donald Trump n'aurait pas aujourd'hui la possibilité de nommer son remplaçant ou sa remplaçante. Voilà une histoire fascinante parce qu'elle raconte l'affrontement entre chaque homme, chaque femme de pouvoir, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. La conviction ne veut pas entendre parler de démission. On est juge à la Cour suprême comme on est pape, et même s'il arrive aujourd'hui que les papes raccroche la tiare, RBG n'est pas de ce bois-là. Elle a toutes les raisons de penser que la personne qui lui succédera sera moins compétente, moins aiguisée, moins travailleuse qu'elle. Oui, mais de l'autre côté, il y a l'éthique de responsabilité, s'effacer pour permettre à son camp, à ses idées de triompher, savoir quand il est tard et qu'il est temps de dire au revoir, parce que la postérité se souvient mieux de votre sortie que de votre entrée dans la carrière. Alors, il s'est écoulé 7 ans entre ce déjeuner à la Maison-Blanche et la disparition de RBG. Aujourd'hui commence la bataille pour sa postérité et les icônes, à la différence des mortels, continuent à vivre près leur mort.